With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Coucou, c'est Mimi.
Coucou, c'est Fab ici.
C'est marrant quand même. Et bienvenue dans...
The Boys Club. Club.
Le jingle à la bouche.
Oui.
Welcome back Fab, ravi de te recevoir à nouveau à mes côtés dans ce podcast, car ça commence à faire quelques épisodes qu'on ne t'entend plus, mais je suis contente que tu sois là.
Je vaquais par ailleurs.
Pour rappel, The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle où chaque quinzaine, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Mais aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial,
comme diraient les youtubeuses.
Tout à fait, qui vous attend pour vous faire un petit story time. Que faisons-nous aujourd'hui et avec qui? Hier, un beau mardi après-midi, ça sonne et j'entends des gars parler dans le bureau de Mademoiselle. Moi, j'étais en train de travailler car je suis quand même payée à faire des trucs.
Bravo Mimi.
Merci. Et Fab Flo vient me dire « Mimi, viens voir, viens parler aux gars là. »
J'ai senti que ça serait ton bail.
Oui. Est-ce que c'est des hommes tout nus? Alors, c'était des hommes, mais pas tout nus, puisqu'il y avait trois gars devant la porte avec une GoPro qui était là « Bonjour, on voudrait parler de féminisme. » Est-ce que j'ai fait « Quoi ?» Et en parlant un petit peu, on s'est dit « Ok, revenez demain quand on aura plus de temps et on va faire un podcast avec vous. Donc je suis ravie de recevoir dans le Boys Club Mathieu, Paul et Clément.
Bonjour. Salut les gars.
Bonjour.
Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites chez mademoiselle.com?
Ok, ouais. Alors en fait, on est trois gars qui viennent de Rennes. Donc on est parti dans une aventure un peu particulière. On
se fait chaque année. Que tu veux dire que t'es breton?
Breton. On est tous les trois bretons, exactement.
Yes.
On commence déjà à marquer des points.
Ouais, on marque des points là, je crois. Du coup, on vient de Rennes et on est parti dans nos aventures un peu particulières. On suit le principe d'une émission qui existe déjà, qui s'appelle Nu et culotté, qui passe sur France 5, où il y a deux gars, Nance et Moots, qui partent à l'aventure, où ils partent sans argent, démunis de tout. Ils partent nus dans la forêt et ils vont à la rencontre des gens. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. On est parti d'une forêt proche de Rennes, sans vêtements, sans argent, sans téléphone, sans papier. Et on s'est dit, allez hop, on y va. On va s'habiller comme on peut, rencontrer les gens et parler justement un petit peu de féminisme avec les gens. Car c'est un sujet qui nous intéresse. Et
Alors, je connais un peu l'émission Nu et culotté, mais c'est un vrai truc qui se fait dans les gens qui regardent Nu et culotté, dans la commu de Nu et culotté, de décider de se barrer comme ça à poil.
Et bah,
ouais. En fait, je sais pas si c'est un truc qui se fait. Après, ouais, il y en a qui passent le pas. Nous, c'est vrai qu'on a regardé les épisodes pendant pas mal d'années et on s'est dit, c'est pas possible, c'est trop fou, faut qu'on le fasse. En fait, on était tellement fans qu'on pouvait pas rester sur notre canapé à se dire, putain, c'est bien ça et je vais reprendre ma petite vie et je vais me coucher. Genre, on se prenait tellement une claque qu'on se disait, non, c'est pas possible, il faut qu'on teste. Du coup, une année, on a passé le pas, on est partis tous les deux avec Clem et on s'est dit, bon, allez, on se donne un objectif et on essaie d'y arriver. Et il semblerait que ça marche, les gens sont vraiment hyper généreux, hyper ouverts et c'est ça qui fait plaisir. Et chaque année, on se prend une petite semaine de bouffée d'oxygène là-dessus, quoi.
Ça fait 4 ans, c'est ça, que vous faites ça?
Ouais, ça fait 4 ans, ouais.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie cette année de venir parler féminisme, puisque de ce que vous m'avez dit, les années précédentes, c'était plus un objectif géographique, genre ok, on va arriver en Suisse, le but c'est de faire Rennes-Suisse, et là le but c'est parler féminisme, ce qui est beaucoup plus large.
Ouais, c'est parce qu'en fait d'année en année, on arrive de plus en plus à amener des potes avec nous dans l'aventure. Donc là cette année on est 6, on s'est divisé en 2 équipes.
Est-ce qu'il y a un concours?
Non, il n'y a pas de concours, c'est pas une course.
C'est Koh-Lanta.
Il y a souvent des gens qui nous parlent de Pékin Express, mais là, on ne fait pas une course. Le but
là, vous avez Mademoiselle, vous avez gagné, hein, je tiens à le dire.
Ok, yes. Nickel, on a gagné, c'est bon. Ouais, c'est vrai, on ne sait pas, peut-être qu'ils ont mieux.
Il n'y a pas mieux, déjà.
Ok.
Les mecs,
sauf s'ils ont Michelle Obama, vous avez perdu.
Ok,
ça va.
Ok, il serait vraiment chaud. Et du coup, on s'est dit, en tout, on a amené peut-être une dizaine de potes dans l'aventure, et on n'a jamais réussi à amener de filles avec nous, mais on en discute beaucoup quand même dans notre entourage. D'amis proches et c'est vrai que c'est plus compliqué pour une fille, on s'est rendu compte, de partir dans ce genre d'aventure. Il y a une charge mentale qu'elles vont avoir en partant dans ce genre d'aventure que nous on n'a pas forcément, et on s'est dit de un que ça nous fait chier parce que c'est un peu le bémol à notre aventure, le seul bémol qu'on se met, et du coup on va essayer à travers l'aventure de cette année de, même si on n'a pas de filles avec nous, de leur donner la parole à travers notre objectif qui va être de parler de féminisme avec les gens qu'on rencontre. de débattre un petit peu sur ce sujet-là en partant de notre expérience du fait qu'on ne puisse pas amener de filles avec nous. Et puis, nous, on connaissait Mademoiselle et on s'est dit, on va essayer de rencontrer des organisations ou des assos comme Mademoiselle ou la Maison des Femmes pour avancer sur ce débat-là, parce qu'on part en mode hyper naïf. Nous, on n'est pas du tout des spécialistes du féminisme et des termes qu'il faut employer. Et du coup, on a envie d'apprendre un petit peu à ce sujet-là, parce qu'on a une amie qui nous coache un peu.
T'as déjà dit charge mentale, hein, si je puis me permettre. Ouais. Déjà, ça, t'es au top. Hein.
C'est vrai?
Ouais.
C'est
bon, pas tout le monde qui a le terme.
J'ai ma première étoile.
T'es dans les 10%, nickel. T'es dans les 10%, quoi. Tu vois,
ok, 10% charge mentale.
Je le connais, c'est mon pote Clem. Je suis fier.
Ouais, par capillarité, vous avez tous une étoile, ok?
Ok, nickel. Merci beaucoup.
Ils sont là, oui.
On avait peur de faire plein de boulettes, du coup on est content si on marque au moins un point.
Dès le début.
Il n'y a pas de boulettes, mais on en reparlera.
Okay. Et du coup notre objectif final, parce qu'à un moment il faut que le voyage se termine, parce que sinon nos parents ils vont s'inquiéter, c'est on s'est dit on va essayer de rencontrer une figure du féminisme. Déjà on est hyper content de venir à Mademoiselle, parce que pour nous c'est un peu ce qui représente le féminisme aujourd'hui sur les réseaux sociaux, etc. Et à travers le voyage on s'est rendu compte que Angèle, la chanteuse, apparaissait comme une figure du féminisme en ce moment en France, notamment avec la chanson et le clip Balance ton quoi. Du coup, notre objectif un peu fou, ça va être de la rencontrer et de parler de ça avec elle. Je sais pas si on va réussir, je prends un énorme risque en disant ça au micro.
On est mercredi, c'est jusqu'à dimanche votre aventure. Ouais. Vous êtes pas hyper sûr de dans quelle ville elle se trouve actuellement.
Ouais, on sait pas si elle est à Bruxelles ou à Paris ou si elle est en vacances. Donc, ça se trouve, on va finir à Bali parce qu'elle est en vacances à Bali. Donc, on sait pas du tout ce qui va se passer. Et c'est ça qui fait rêver.
C'est tight. Et rappelons que vous n'avez pas de téléphone, donc vous pouvez pas vraiment envoyer un DM à Angèle au cas où. Quoi. Ouais,
non, si on y arrive, c'est exactement de la même manière par laquelle on est arrivé à Mademoiselle. On sonne à la porte, elle nous ouvre et puis c'est parti.
C'est quoi votre rapport au féminisme, tous les trois? Est-ce que vous vous définissez comme féministe? Quand est-ce que vous avez commencé à vous y intéresser?
Bah, en fait, l'année dernière, on a vraiment commencé à parler beaucoup de ça, parce qu'on a une amie qui est proche de nous et qui milite pas mal là-dessus et qui est un peu en train de nous rééduquer. Ça se voit pas à la radio, mais j'ai mis des guillemets quand j'ai parlé.
Il a fait des guillemets avec ses doigts.
Des air quotes. Et du coup, ouais, on a pris pas mal de claques là-dessus, qu'il y avait peut-être un certain décalage avec ce qu'on pense nous être normal dans la vie de tous les jours, et en fait ce qu'il faudrait vraiment faire pour rattraper un petit peu ce décalage. Du coup, le rapport au féminisme qu'on a, c'est on sent qu'il faut commencer à faire bien les choses, et on aimerait bien se renseigner un peu plus avant de commencer à pouvoir dire « Eh, ça y est, on fait les bonnes actions pour », parce que j'avoue que c'est un sujet un peu délicat, et moi personnellement j'ai l'impression de me dire « Ah merde, j'ai voulu bien faire et c'est pas forcément bien ». Du coup, on est de bonne volonté, mais on n'a pas encore tous les codes et tous les trucs, et c'est pour ça aussi qu'on est ici.
T'as un exemple particulier d'un truc que t'aurais voulu bien faire et sur lequel t'as fait « Ah merde, je déconne ».
Bah des fois j'avoue que nous on déconne pas mal, et des fois quelques vannes, quelques trucs qui peuvent sortir, je sais pas, des répliques de films, notamment OSS 117, on est vraiment super fan, et des fois j'ai la réplique facile, on va dire, et c'est un peu familial ça, à tous les repas on fait des répliques, et à un moment je fais ah ouais putain, ça peut être vraiment mal interprété et tout. Après je sais que ce film là
c'est fait pour, hein,
c'est fait pour et du coup c'est du second degré,
si tu les sors au premier degré c'est chaud.
Ouais, carrément.
Si tu t'identifies personnellement à Hubert Venisseur de la Batte, peut-être il faut se moderniser un peu.
J'ai déjà entendu cette théorie. Non mais voilà, du coup j'avoue j'ai pas d'exemple concret à vous offrir.
Je suis sûr que t'en as, mais ça viendra plus tard, parce que ouais, peut-être t'as peur pour l'instant.
C'est vrai que j'ai peur pour l'instant.
Ouais.
J'ai pas de sarbacane ni rien, je vais pas vous attaquer personnellement quand vous dites un truc problématique, car c'est pas l'idée.
Les autres garçons, c'est quoi pour vous le féminisme? Ou être féministe?
De quoi? C'est quoi être féminisme?
Yes.
C'est compliqué de répondre à cette question. C'est de, je pense, d'essayer de prendre conscience déjà qu'il y a beaucoup de choses qui se font autour de nous. Genre, comme on disait juste avant, des propos, des trucs un peu bizarres sur lesquels on n'avait pas conscience peut-être quand on était plus jeune. Et là, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on voit pas et qui nous paraissent normales, et que faut plus que ces choses-là soient normales, justement. Et être féministe, je pense déjà, c'est juste d'en prendre déjà conscience. et de se dire ouais qu'il y a ça autour de nous, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Après, je sais pas vraiment moi-même en quoi ça consiste réellement. C'est peut-être un peu pour ça que je suis là aussi et qu'on est là pour rencontrer les gens et d'en parler. C'est pour essayer de comprendre aussi qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour trouver une solution à ça, justement, à essayer de changer ces choses-là.
Mais et... alors, si je te demandais, et en fait, pars du principe qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, okay. Et je pense qu'il faut que vous détendiez un petit peu.
Ouais. C'est pas un quiz, en fait, c'est juste votre rapport voilà. À la question et votre expérience et votre histoire et qui c'est qui vous a mis le nez dedans ou un événement où vous vous êtes dit ouais, « j'avais jamais vu les choses sous cet angle et tout ». On va pas vous dire « non, vous avez tort, c'est pas ça ». Parce que l'important, c'est de raconter votre expérience à vous.
Je vous le disais hier, mais en fait, personne ne n'est féministe. Parce que sinon, en fait, la Terre tournerait sans doute beaucoup mieux. Oui, c'est un chemin. Et c'est un chemin qui peut parfois prendre plus ou moins longtemps en fonction de ton propre vécu, etc. Ouais. A priori, pour les meufs, c'est plus simple parce qu'en fait, elles le prennent tous les jours en pleine gueule. Ouais. Pour les mecs, il y a la construction d'éducation, etc., qui est compliquée. Hein. Donc, je voudrais juste vous entendre. En fait, si vous venez et que vous jouez pas le jeu, entre guillemets... Ouais. De venir raconter vraiment les trucs, ça va être compliqué d'avoir une discussion un peu sincère.
Okay.
Et je vous dis ça très tranquillement. Vraiment, vous mettez pas la pression plus que ça. Hein. Non. Si vous voulez partir, vous pouvez dire je veux pas être là finalement, laissez-moi partir.
On va chercher Angèle là-bas dans la rue peut-être.
Angèle, elle sera plus sympa.
Non, c'est pas le but.
Mais par exemple, donc si t'as. Je comprends que tu te dises ok, j'ai besoin d'un mode d'emploi entre guillemets où j'ai besoin de tips ou de conseils parce que je vois pas trop. Ouais. Si on de base, toi en tant que mec avec ton vécu, qu'est-ce que tu te dirais que tu pourrais faire comme je sais pas un truc ou deux par exemple dans ton quotidien qui permettrait de faire avancer l'égalité homme-femme par exemple, femme-homme.
Truc dans mon quotidien qui m'aiderait, c'est compliqué. C'est compliqué. Je suis encore bloqué sur le fait de faire des entre guillemets des boulettes. Du coup, c'est.
Bah oui, mais
moi j'ai retrouvé un exemple là quand t'étais en train de parler. Du coup, je me souviens il y a quelques temps, j'étais dans un covoiturage et on a commencé naturellement à parler du printemps de la jupe. Printemps de la femme ou il y a un truc comme ça.
Le 8 mars.
Ouais, il y a un truc, je sais plus, il y avait un événement et j'étais avec trois filles dans un covoiturage.
C'est le fameux événement où on demande aux lycéennes de venir en jupe à l'école,
ouais,
non?
Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, ouais. Okay. C'est ça, ouais. Et bref, on a commencé du coup à parler un peu des différences hommes-femmes et j'avoue qu'on a parlé du fait de juste le simple fait de rentrer en soirée le soir, dans la nuit, à pied. J'avoue, moi, je l'ai fait plein de fois sans forcément me poser des questions ou avoir peur ou truc comme ça. Et là, j'ai compris la différence du truc. Et à partir de ce moment-là, quand elles m'ont dit, genre, elles étaient trois, elles m'ont raconté que chacune avait vécu au moins, mais 4-5 expériences, mauvaises expériences où c'était bizarre, elles s'étaient fait suivre, il y avait machin. Et là, je me suis dit, ah ouais, putain, genre, si elles sont trois à me raconter ça, c'est que, enfin, il y a vraiment un truc, quoi. Moi, j'ai jamais vécu ça et. Je sais pas, genre je suis serein là-dessus, du coup j'ai pas du tout ça en tête, quoi. Et du coup maintenant à chaque fois que je fais un covoiturage ou un truc comme ça, et je demande, tu vois, genre naturellement, naïvement, je crois que je suis pas tombé sur une seule qui m'a dit ah non, moi j'ai aucune expérience. On a été hébergé là chez Mao, que je remercie d'ailleurs, hier soir, et ce matin au petit déj, elle nous a raconté qu'elle était qu'elle s'était fait agresser il y a 3 mois, un mec qui voulait prendre son téléphone et tout, quoi. Genre c'est venu naturellement dans la conversation et genre c'est choquant, tu vois, genre c'est banal maintenant, mais ça devrait pas l'être, tu vois. Et j'avoue, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est rien qu'en prendre conscience en tant que mec à qui ça nous arrive pas, ça nous a mis une petite claque, et j'avoue. Et
qu'est-ce que par exemple t'aurais pu faire auparavant est-ce que le fait de déclencher ces discussions-là, c'est pour toi une démarche que t'avais pas auparavant?
Ah ouais, complètement.
Ou de les entendre peut-être, écouter.
Ah ouais, complètement. Les écouter et puis en prendre conscience vraiment, pas faire l'autruche en mode ah ouais c'est vrai, bon au pire tu prends un bus ou un truc comme ça, tu rentres plus tôt. Genre vraiment se dire bah non, il y a un problème, quoi. Genre une fille à partir de 2 heures, il y a plus de bus et voilà, elle peut pas forcément rentrer chez elle, ok. Bon, du coup, après, il y a le truc, je vais te raccompagner. Mais j'avoue, même avec la bonne volonté, je suis désolé, mesdames, mais je vais pas pouvoir vous raccompagner toutes deux soirées.
Zut, je comptais sur toi. Sur toutes les soirées.
Mais trois, du coup, on peut déjà en raccompagner trois. Je me disais,
c'était...
on fait des bonnes
semaines.
Faites des allers-retours, faites des navettes.
Ouais, c'est ça.
Mais du coup, non. Et là, on s'est dit, ok, bon, ce qu'il faut faire, c'est au moins permettre aux autres, à nos autres potes, à nos autres, aux autres gars, d'en prendre conscience. Et du coup, parler de ça, aller voir des assos comme Mademoiselle ou faire des vidéos là-dessus, c'était ça l'idée, quoi. Genre, physiquement, j'avoue qu'on n'a pas encore vraiment les actions, mais déjà, au niveau information et tout, je pense qu'on peut faire des trucs. Et si les gens sont au courant, ils peuvent plus faire les autres trucs aussi. C'est ça le truc.
Bon, après, même dans notre quotidien, nous, on peut être considéré comme sexiste sur certaines choses, quoi. Je veux dire, moi, j'ai baigné dans un environnement familial féministe, quoi. Je suis le seul frère au milieu de deux sœurs. Du coup, mes deux sœurs, elles sont féministes à fond. Ma mère, elle est féministe à fond. Mais pour autant, à la maison...
Et ton daron, il est comment?
Et mon daron, bah, il est féministe. Même à son travail, lui, il fait partie d'un comité où voilà, il essaye de se battre pour l'intégration des femmes parce qu'il travaille dans un domaine scientifique. Mais c'est trop galère pour eux d'avoir des filles à travailler dans ce domaine-là. Mais pour autant, à la maison, je peux pas dire que le sexiste, il est pas présent. Le sexisme, il est pas présent. Je veux dire, aujourd'hui, on est tous majeurs, mes frangins, frangines. Enfin, mes frangines, du coup, et moi. Et je vois des différences, quoi. Quand je suis à la maison avec mes sœurs, c'est pas moi qui va aller faire la bouffe, quoi. Mais instinctivement. Et du coup, j'essaye de me dire, c'est pas normal, quoi. Et par contre, quand mon père bricole, bah, moi, je vais l'aider. Du coup, me dis, c'est des trucs, mais basiques, de base, on se rend même pas compte du truc. Mais quand tu prends du recul, tu dis, ah ouais, merde, il y a peut-être un souci, quand même. Et du coup, je me dis qu'il y a des choses à régler. Déjà, du point de vue familial, l'environnement hyper proche, avec nos potes pareils, notre pote hyper féministe avec qui on parle tout le temps, on essaye de se motiver à l'aider à chaque fois en soirée parce qu'elle prend toute la charge mentale de la soirée que nous, on n'a pas. Les mecs, on est tous sur le canapé. En plus, c'est la seule fille, alors je vous dis que...
Mais comment s'appelle-t-elle d'ailleurs?
Elle s'appelle Anne Journet, on lui fait une énorme bise.
On l'embrasse.
Ouais, carrément. Et du coup, ouais, déjà dans notre environnement très proche, familial et amical, je pense qu'il y a des efforts à faire qui sont fous. Et après, nous, bah, on est des petits genoux, mais on va rentrer dans le monde du travail. Et là, dans le monde du travail, il y a une deuxième couche, un deuxième travail à faire qui va être fat, du coup. Je pense qu'il va falloir qu'on se repose pas mal avant d'entamer le monde du travail.
C'est quoi votre vie, en fait, à peu près le domaine dans lequel vous étudiez, dans lequel vous allez bosser déjà, vous avez quel âge?
On a tous les trois 24 ans.
Ok.
Et moi, je sors des études. Là, je viens de finir il y a deux semaines mon master 2 RH, donc okay, ressources humaines. Et franchement, je vous dis pas que je vais travailler là-dedans. Je l'annonce à la France entière. parce que bon, on est une génération aussi qui vit un peu dans le flou, pour faire référence à Angèle. et du coup, on se cherche un peu, mais je sais par exemple que dans le domaine RH dans lequel j'ai fait des stages et tout, il y a une vraie lutte à avoir là-dessus, ne serait-ce que sur le recrutement, avoir dans des métiers scientifiques, comme je le disais, autant de femmes que d'hommes, essayer d'amener même l'égalité salariale, etc. Du coup, moi je sais que si je fais ça comme métier, il y a une lutte à mener, quoi. Voilà.
Alors moi je suis pas du tout dans le même domaine, je suis dans le bâtiment, je suis menuisier. Donc c'est tout récent, et un peu comme Clément, il y a aussi une grosse lutte dans ce domaine-là, parce que il y a aucune femme, en fait. Il y a vraiment presque aucune fille qui travaille dans le bâtiment. Et ça, on le voit tous les jours, genre, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, genre, il y a très peu de femmes. Là, je sors d'une formation, justement, tout juste, où là, on était moitié fille, moitié homme. Je me dis, ah, peut-être que, je sais pas, de plus en plus, les filles commencent à se diriger vers les métiers de bâtiment, et c'est cool, justement, genre, c'est pas des métiers réservés aux hommes. C'est pas parce que c'est physique ou quoi... que c'est réservé juste pour nous, du coup c'est cool là de voir qu'on était moitié homme, moitié femme, mais quand je me suis rentré dans le monde du travail et que j'ai fait mon premier travail, je me suis dit, ah ouais, en fait non, actuellement il n'y a aucune fille, quoi. Il n'y a pas de fille qui travaille là-dedans, et je trouve ça un peu dommage, du coup.
Et tes potes de promo, elles ont trouvé du taf?
Des infos que j'ai, elles ont quasiment tous trouvé du taf, donc apparemment pas dans les mêmes boîtes où je suis, parce que moi je vois pas de fille là où je suis, donc mais elles ont trouvé, donc c'est que ça marche, et c'est que ouais, c'est ça, faut que je me pose les bonnes questions.
Qu'est-ce qu'il disait?
Il disait, pose-toi les bonnes questions.
Ouais, c'est ça, faut que je me pose les bonnes questions. Donc, du coup, je vois que je pense que maintenant les recruteurs sont beaucoup moins fermés, enfin, parce qu'ils devaient peut-être l'être à l'époque, je sais pas trop pourquoi. Et maintenant, bah, il y a beaucoup plus de filles qui se dirigent vers ces métiers-là, et du coup, c'est cool aussi, quoi. Enfin, je sais pas si c'est cool, mais ça.
Je pense aussi que ça joue à l'orientation, tu vois, au moment de l'orientation. Et je pense aussi que les filles se disent, de base, c'est pas des métiers pour
moi.
Voilà,
c'est ça. Ouais,
donc, tu as tout un système qui est...
Complètement, ouais. C'est ça. Elles se disent, c'est pas pour moi. Moi, je vais plus me diriger vers d'autres métiers. Je n'ai pas d'exemple, mais pas les métiers du bâtiment,
plutôt
mais
genre, infirmière ou
plutôt
métier,
voilà, infirmière.
Il faut prendre soin des autres.
Malheureusement,
tout ce
c'est
qui
ça.
Est care mal payé, ça c'est vraiment une passion féminine. Les métiers, on s'occupe des autres, mais on n'est pas beaucoup payé. Ça c'est. Et est-ce que t'en parlais avec les filles de ta promo de ces
Pas beaucoup. J'ai pas eu trop l'occasion de leur en parler un petit peu. On en parlait des fois en classe de manière générale. Et elles pensaient la même chose. Elles disaient que de base, en fait, c'était un métier de reconversion professionnelle. Donc la plupart de ces filles-là, elles n'étaient pas du tout attirées par le bâtiment à la base. Et c'est au fur et à mesure, à force de, je sais pas, j'en ai parlé avec une, à force de bricoler un peu chez elle, de faire des trucs un peu manuels chez elle, elle s'est dit, oh mais ça m'attire. C'est vrai que j'étais pas du tout baigné dedans quand j'étais petite. On m'a plus dirigé vers autre chose. Et là, le fait d'essayer de moi-même de venir bricoler un peu, de faire la menuiserie entre guillemets, ça m'a donné envie de travailler dans le bâtiment. Et j'avais un peu peur au début parce que, enfin, la fille dit, il y a pas beaucoup de filles, est-ce que je peux le faire? Et puis elles le font de plus en plus et voient que, bah ouais, en fait, elles peuvent le faire, tout comme nous, quoi.
Waouh, ça va dans le bon sens.
Oui, ça avance. Très important de prendre les petites victoires parce que sinon c'est déprimant la vie.
Ouais, c'est vrai.
Et toi, tu fais quoi dans la vie?
Et moi,
toi, tu bosses déjà, c'est ça?
Ouais, je bosse. En fait, je suis dans le cabinet d'architecture de ma sœur. Elle a ouvert une boîte d'archi avec son copain. Et du coup, moi, je suis archi aussi pour elle. Et non, c'est cool, ça se passe bien et tout. Mais tu vois, genre dans la boîte, on est quatre maintenant. Et ils sont trois associés, deux mecs et du coup ma sœur. Et je le vois, tu vois, le manspreading, tu vois, genre, ils sont en train de discuter tous les deux. Des fois, genre, il y a ma sœur qui va dire, bah, sinon, on fait comme ça, les gars. Enfin, moi, ça me prend 5 minutes, après, je suis tranquille. Et ils vont mettre un quart d'heure à se rendre compte qu'en fait, ouais, c'était la bonne solution, tu vois. Et, non, mais je te jure que c'est vrai. Après, bon, c'est cool. Et je veux que ma sœur est une femme de caractère et elle arrive à se faire entendre et heureusement, tu vois. Mais, c'est vrai que dans mon taf, je le vois alors qu'on est quatre. Du coup, là, l'idée de l'aventure, c'est que dans les premières années, on a réussi à faire nuit et culottée et à prouver que voilà, la France est un pays du coup hyper accueillant. Les gens sont généreux et qui n'ont pas d'a priori, même si on est habillé avec un legging de femme ou des trucs comme ça. Merde, j'ai fait une boulette. Mais
c'est un legging mauve pour faire l'audio guide.
C'est un
a priori, moi, je pourrais porter mauve aussi, tu vois. Donc, je sais pas trop si c'est tant un legging
qu'on trouve au rayon femme.
Et tu es un modèle de virilité, Fabrice. Est-ce que si tu dis je pourrais le porter aussi, ça veut dire que c'est vraiment
déjà,
bonhomme?
Est-ce que si t'es un mec, tu portes un legging? Non.
Alors, ah, alors des charges, il fallait bien qu'il s'habille. Et Décathlon avait des aventures.
Je parlais d'une manière générale.
Oui,
c'est vrai. Et du coup, non, c'était ça un peu l'idée, c'était de se dire, bon, bah, on a un petit peu réussi à faire notamment évoluer nos parents là-dessus, nos familles et tout, nos potes, et sur cette idée de la peur de l'inconnu. Et on s'est dit, tiens, si on parlait du féminisme, on va peut-être faire aussi bouger les choses. Et du coup, voilà l'idée.
J'aimerais bien parler de cette idée de pédagogie ou d'éducation, parce que tu dis que votre ami vous rééduque avec des guillemets, avec les doigts. Ouais. Mais. Enfin, c'est aussi dans la démarche dans laquelle vous êtes, c'est de faire de la pédagogie autour du féminisme pour que plein de gens se rendent compte de ce que vous avez découvert.
Ouais.
Et en fait, j'ai l'impression qu'une partie de votre démarche, c'est essayer de comprendre comment vous pouvez agir pour l'égalité, qu'est-ce que vous pouvez faire.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et il y a un truc dont on parle souvent dans ce podcast et sur Mademoiselle en général, c'est que les mecs ont un vrai rôle à jouer, notamment auprès des autres mecs, parce qu'il y a plein de mecs qui vont pas trop écouter les femmes ou qui vont se dire que c'est des cas isolés, etc. Et qui vont plus, bah, comme tu disais avec l'exemple de ta sœur, qui vont plus écouter des paroles masculines que féminines sans forcément s'en rendre compte. Et du coup, les mecs qui veulent faire avancer l'égalité, ils ont un vrai rôle à jouer en parlant à d'autres mecs autour d'eux, parce que votre parole aura peut-être plus de poids que la mienne, par exemple, auprès d'un groupe de mecs. Est-ce que vous faites cette pédagogie-là auprès de vos autres potes masculins? Parce que
On commence petit à petit à la faire, justement. Mais comme c'est tout récent, il y a notre pote qui nous a un petit peu, comme tu dis, rééduqué là-dedans. Du coup, nous, on commence à prendre conscience et à en parler autour de nous, à nos potes, mais on se limite encore un peu qu'à nos potes. Justement, ce genre de voyage nous permet aussi de commencer à en parler aussi aux autres gens qu'on connaît pas, parce qu'on se voit pas tous les jours, dans nos vies tous les jours, aller voir des gens et leur dire, venez, on va parler féminisme et tout. Genre, c'est pas quelque chose, c'est un peu bizarre. Alors que là, ce genre de voyage nous permet complètement, vu qu'on fait des rencontres toute la journée, de commencer justement à parler de ça avec eux. Donc, ouais, je pense qu'on commence à essayer de le faire.
Ouais, avec nos potes et puis même avec nos familles. Enfin, moi, je sais que je le fais dans ma famille. Je sais que, bah, quand tu parlais du bricolage tout à l'heure, c'est tout con, tu vois, mais mon père, il me fait, bah, tu vas m'aider parce que j'ai un truc à faire et tout. Je dis, bah ouais, mais carrément, Manon aussi est là, tu vois, genre, elle peut le faire et puis moi, je peux aller faire à manger ou truc comme ça, genre. Ce genre de petits détails-là, mon père, il fait, oui, 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 non, mais. Ah, bah, oui, oui, bah, vas-y, Manon, mais après, tu sais, elle est fatiguée, ta sœur et tout. Mais... bah, oui, mais bah, elle peut le faire, hein, tu vois, genre, c'est ça l'idée aussi.
Ouais, et puis, au début, c'était pas facile pour nous de se lancer dans cette aventure en disant, vas-y, on va parler du féminisme, parce que c'est pas un sujet hyper. Qui peut être perçu comme hyper fun. Et on a senti parfois que ça pouvait mettre une barrière avec les gens. Et de base, nous, on part en mode. On veut se marrer tout le temps, quoi.
Pourquoi pour toi, c'est pas hyper fun?
Mais je sais pas si pour moi c'est alors ou alors moi je suis pas du tout fun. Non,
pourquoi pour toi
et quand je l'amène aux gens ça marche pas du tout mais ils rigolent pas en général.
Pourquoi pour toi il est pas perçu comme un sujet hyper
ouais
fun.
Parce qu'on l'amène comme un sujet grave, comme un sujet de société qui est un problème dans la société, comme quand on va parler d'écologie, c'est pas un sujet qui est perçu comme fun parce que c'est un problème qu'il faut régler le plus vite possible et du coup voilà. Après nous on essaye de l'amener avec de la légèreté quand même. Mais de premier abord, comme ça, quand on en parle aux gens, c'est vrai qu'ils font « Ah ouais, ok, ça colle pas forcément avec l'image des mecs qui arrivent à poil chez eux juste avant, quoi. » Mais
Essayez, chers auditeurs, chères auditrices, imaginez dans vos têtes trois hommes nus avec un pagne en feuilles qui sonne chez vous et qui dit « Vous voulez parler féminisme ?»
Voilà, fermez les yeux, génial. Respirez bien fort et puis imaginez-nous dans votre salon. Mais ouais, du coup, ce travail de communiquer là-dessus, déjà, c'était un travail à faire sur nous-mêmes pour assumer le fait que voilà, on a envie de parler de ça. Et c'est tout con, mais c'est pas forcément facile à faire au premier abord, quoi. De se dire, ah, on a envie de parler de féminisme, alors qu'on est trois gars. On a envie de parler de féminisme, on n'a pas envie de parler à la place des filles, surtout parce que j'ai pas envie de faire cette erreur-là. Mais on a envie de donner la parole plutôt aux femmes, quoi.
Mimi, est-ce une erreur pour les garçons de parler à la place des femmes sur le féminisme?
Plutôt, je dirais plutôt éviter, mais après il y a parler à la place d'eux et il y a rapporter les discours en fait. Quand tu parles de tes trois covoitureuses qui t'ont parlé de chacune du harcèlement ou des agressions qu'elles ont pu subir, tu parles pas à leur place, tu fais résonner leurs discours et leurs expériences. Ouais. Donc parler à leur place, ce serait tenir des discours à leur place, quoi, ou inventer des choses.
De venir leur dire « je sais mieux que toi ».
Oui.
Ouais, c'est ça.
De venir leur dire « c'était pas si grave, c'est des cas isolés, faut pas le prendre mal, naninana », qui sont des choses qu'on peut entendre quand, en tant que femme, on parle de harcèlement de rue ou de harcèlement sexiste en général. Comme, en fait, les mecs, pour la plupart, ne le vivent pas, c'est dur de se rendre compte que, oui, probablement que 100% des meufs que vous connaissez ont vécu au moins une occurrence.
Même
quoi.
Moi, il y a deux ans, j'étais capable de dire à notre pote avec qui on parle de féminisme aujourd'hui, ah ouais, mais si tu crois vraiment que ça arrive à toutes les filles et tout, parce que moi, nous, en fait, c'est compliqué à capter, mais on est tellement loin de ça. C'est un monde qui est presque parallèle à nous, tellement qu'on le vit pas, cet harcèlement de rue, etc. Du coup, ça prend du temps d'en prendre conscience.
J'ai envie de vous dire, c'est pas grave, parce que c'est la réaction que j'ai eue, moi, en 2011. Tu vois, quand j'ai entendu parler pour la première fois dans la rédac de harcèlement de rue, mon premier truc, elle parlait de... Il y avait des ouvriers à côté de la rédac qui les sifflaient à chaque fois qu'elle passait. Et donc, moi, j'ai jamais entendu un ouvrier de ma vie siffler.
Tu t'es jamais fait siffler?
Alors, je me suis jamais fait siffler.
Je me suis déjà fait siffler, si je peux me permettre.
Pas un ouvrier.
Pas par un ouvrier, non plus.
Et en fait, quand je suis avec une fille, entourée d'une fille, ou avec en train de me balader, ça n'arrive jamais. Donc en fait, pour moi, c'était pas la réalité. Sauf que je me suis rendu compte, elles m'ont proposé un truc de fou, et que vraiment, je propose à tous les mecs, je le redis là, si jamais vous êtes sceptique, entre guillemets, sur le harcèlement de rue, je vous propose d'aller dans une rue bondée, commerçante, piétonne, machin, un samedi en début de soirée, avec des potes, à vous, des meufs. Et en fait, vous vous mettez 50 mètres derrière et vous regardez ce qui se passe. Et en fait, vous allez découvrir une toute autre réalité. Parce que vous allez juste voir qu'en fait, c'est leur vie, c'est de se faire arrêter, ou de se faire siffler, ou de se faire alpaguer tous les 50 mètres. Et ça n'existe pas pour les mecs. En tout cas, si ça t'arrive, c'est une fois. Tu vois, t'as dit, toi. C'est,
tu t'en souviens. Tu peux te souvenir du jour où tu t'es fait siffler et par qui. Je vais arrêter de compter, si tu veux.
Et j'ai fait ça à Nantes, moi, il y a un mois. Avec deux amies filles, là, que j'ai fait ça pas fait exprès, parce que j'étais sur mon portable, elles ont pris de l'avance, et puis du coup, j'ai pris du recul sur les deux filles qui marchaient, et ouais, les gars qui se retournaient, qui sifflaient, et quand on est dans la discussion avec les filles, je m'en rendais pas compte.
Et ouais, parce qu'en plus, mais parce que les mecs le font pas.
Bah ouais,
quand les filles ont l'air déjà ouais. accompagnés par un mâle, les harceleurs de rue, alors c'est pas 100% des cas, mais se retiennent. Et plus le mec a l'air dans les codes de virilité, plus les harceleurs de rue vont laisser les filles tranquilles. Si t'es avec un mec qui est petit, chétif, qui a pas l'air hétérosexuel ou qui a l'air beaucoup plus jeune ou un truc comme ça, y a des mecs qui vont se dire « Ok, c'est pas une menace, je suis plus un mec que lui, donc je vais quand même aller harceler la fille. » Mais plus le mec est dans les un bonhomme, on va dire, plus les harceleurs vont dire « Ok, c'est bon, c'est lui qui l'a. » C'est un peu genre la meuf, c'est sa propriété, ouais, c'est donc je vais pas... Parce que du coup, tu risques de te faire taper par le gars.
Pas
par la meuf, bien sûr.
C'est très... Ouais, c'est la jungle.
C'est la jungle, en fait.
Ouais, je vois ça.
Après, c'est... Oui, c'est un peu la loi de la jungle. Ouais.
C'est bizarre d'être encore sceptique sur ce truc-là. Genre, à partir du moment où toutes les filles le disent, elles se font harceler et tout, je pense que bon, c'est bien de faire, d'essayer ce que t'as dit, de se mettre en recul et laisser les filles pour voir, mais je pense que maintenant, on peut tous y croire, quoi. On peut tous prendre conscience que ouais, c'est
vrai. C'est pas y croire, en fait. Tu vois, justement, il y a un côté.
C'est juste le voir et le. Ouais.
C'est pour moi, il y a des gens qui ont besoin de voir.
Pour
être sûr que cette réalité existe. Et que c'est pas des trucs qu'on. En plus, avec Internet en ce moment, les fake news, on nous ment, on nous raconte des trucs et tout. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de voir cette réalité-là. Et le conseil que j'ai envie de leur donner, c'est, en fait, juste tester cette technique qui marche très très bien et qui te permet de te rendre compte à peu de frais et sans prendre vraiment beaucoup de temps ce que c'est que la réalité des meufs.
C'est vrai.
Moi je me demande s'il n'y a même pas un truc de culpabilité des mecs pour ceux qui se forcent à pas se rendre compte du truc parce que ça fait culpabiliser. Nous on est des hommes blancs privilégiés, on est nés dans une famille qui a les moyens, etc. Et du coup, de se dire ok, les mecs dans la rue c'est des porcs. Et ben, ça peut nous faire culpabiliser parce qu'on peut s'identifier à ça, tu vois. Et du coup, prendre conscience de ça, c'est aussi se remettre en question soi-même, ce qui est pas forcément toujours facile.
Est-ce que vous avez la sensation que plus jeune, vous avez pu avoir des comportements de connard, vous aussi? Parce que moi, j'en ai eu, hein.
Donc, ouais, je pense, ouais. Je pense que ça a dû nous arriver. Pas de connard.
On a eu un petit.
Ouais. Peut-être pas au point de siffler les filles.
Non,
dans les rues.
Aborder les filles dans la rue, jamais.
Jamais, ouais.
Jamais, ça, et ouais. Jamais, mais après des réflexions, je vais passer le micro à Mathieu.
Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? T'avais l'air.
Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis désolé pour ce que je vais raconter. Un soir d'été, un soir de Coupe du Monde, je dirais même, notre pote Anjou s'est fait emmerder par un mec qui l'a traité de salope. Comme ça, sans aucune raison, pour le plaisir des yeux.
Juste parce qu'elle existait.
Juste parce qu'elle existait et qu'elle était en ville, toute heureuse que la France ait gagné. Quand elle m'a raconté cette histoire, la première réaction que j'ai eue, qui est terrible, je lui ai dit, ah ouais, mais aussi, enfin voilà, t'étais habillé comment, quoi. Et là, par l'expression de son visage, j'ai directement compris que j'étais en train de faire une bonne boulette. Du coup, on en a discuté pendant un bon quart d'heure et j'ai pris conscience de ce que j'avais dit et que non, ça allait pas le faire. On était en 2019, mec, et Hubert Bonisseur de la Batte, c'était il y a quelques années, quoi. C'est exactement, fini. Toujours lui. Pour moi, c'est ma ref, genre le truc à pas atteindre, quoi. Et du coup, maintenant, voilà, genre ce truc-là, on me le rappelle souvent. On me tacle un peu avec ça, on me charrie. Et mine de rien, bah, ça me rappelle que merde, quoi. Genre même si elle était nue dans la rue, genre elle a pas entendu ça, tu vois. Et moi, des fois, je le suis nue dans la rue, donc.
Grave.
Et je ne l'entends pas.
Est-ce que t'as réussi à comprendre c'est quoi le mécanisme qui fait que ça a été ta première pensée?
C'est un mécanisme un peu nul, genre tu vois, on confond souvent se faire belle et aimer plaire avec provoquer, tu vois, et je pense que c'est un peu le truc où nous on a du mal à se positionner là-dessus et il faut être un peu au clair là-dessus, genre on a le droit de s'habiller comme on veut et genre peut-être moi je vais interpréter ça comme de la provocation et une autre personne pas du tout, quoi. En fait genre tout le monde est différent et tout le monde perçoit les choses différemment et je pense que c'est ça un peu la base du truc, mais par réflexe, un réflexe con, tu vois, d'une société patriarcale.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ils sont fait un petit check, genre, j'ai du patriarcal.
J'ai réussi à le caler.
Vous avez une liste de mots, genre, mots, vocabulaire féministe à mettre dans ouais, le podcast.
Mots trip.
Et comment ça se passe quand vous en parlez à vos potes et à vos familles? Donc, on a eu quelques exemples avec le daron qui est là. Oui, d'accord, peut-être ta sœur, elle peut le faire et tout. Mais ça m'intéresse vraiment parce que c'est une expérience qu'on n'a pas beaucoup eue dans ce podcast et que, par définition, de par mon genre, moi, je peux pas avoir. Puisque moi, quand je parle de féminisme à des mecs, j'ai forcément le statut de... C'est un peu ma problématique qui me concerne puisque je suis une femme, donc j'ai un statut différent de vous. Comment ils réagissent les mecs autour de vous quand vous parlez
c'est
de ça?
C'est des mecs qui en parlent à d'autres mecs. Ouais. Bah en fait, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on en parlait à nos potes, ils étaient plutôt d'accord avec nous directement. Et ils ont vite compris en fait le truc et du coup ils se sont vite lancés un peu comme nous à se dire on va prendre conscience du truc et dire ah ouais en fait vous avez raison, on va essayer d'observer un peu plus et de prendre conscience. Mais je sais pas si là on essaie d'en parler genre demain à quelqu'un qu'on connaît pas, enfin un mec, comment il le prendrait, s'il prendrait plus en compte notre parole que la parole d'une fille, c'est peut-être vrai, mais je sais pas du coup ce qu'il ferait, s'il chercherait à en prendre conscience ou le peu qu'on a eu, c'est vrai que ça, des fois ça pouvait aussi fermer des barrières en mode ah ouais ouais ok bon. Ouais, t'as peut-être raison, et puis ils s'en fichent un peu, tu vois. Je sais pas si notre parole a plus d'impact que la vôtre.
Je pense que vous pouvez partir du principe d'expérience que, en fait, les mecs ont plus de poids dans leur parole sur les mecs par rapport aux filles. Ouais. Alors, en général, hein, c'est pas pour faire des grandes généralités, mais de mon expérience, pour m'être retrouvé parfois dans des dîners ou dans des trucs où t'as à un moment donné une fille qui est à côté de toi et qui est en train de parler de sa réalité, il suffit que tu viennes dire, c'est dramatique en plus, c'est un peu le cercle vicieux de cette histoire, il suffit que toi tu viennes dire, non mais en fait je suis en train de valider ce que la meuf elle dit, pour que d'un coup d'un seul, le mec fasse... Okay, d'accord, ça marche. Et en fait, ça fait partie aussi de l'éducation, quoi, tu vois.
Ouais, complètement.
Mais c'est vrai que... comment vous avez été élevé dans votre éducation? Vous avez des sœurs?
Ouais.
Moi, typiquement, dans ma famille, en plus c'était la plus petite, mais en fait, la petite sœur, il fallait pas qu'elle parle, quoi, tu vois. C'était juste, c'est vous les garçons qui avez raison, et puis la petite sœur, elle reste dans son coin, quoi.
Ouais, complètement.
Bon, après, on a 20 piges d'écart, hein, donc ça a peut-être changé. Mais...
Moi, j'aurais du mal à répondre à ça parce que j'ai pas été du tout éduqué comme ça. Enfin, on a tous eu autant la parole aussi importante dans ma famille, je pense.
Comme quoi, ça avance.
Que ce soit mes sœurs ou moi, on n'a pas eu de plus d'impact. Genre, si ma sœur disait un truc, j'avais pas besoin, entre guillemets, de valider le truc pour dire ah ouais, elle a raison. Non, mes parents, ils écoutaient, c'était tout à fait normal. Mmh. Du coup, c'est vrai que je sais pas si vous c'est différent. Moi, c'est compliqué du coup de dire.
Moi, comme je le disais, j'ai une famille féministe de base. Ouais. Mais je vois les différences quand même. Du coup, je me dis, qu'est-ce que c'est dans une famille qui réfléchit même pas à ces problématiques-là, quoi. Moi, mes sœurs, elles réfléchissent à des choses auxquelles moi je réfléchis même pas parce que, alors que d'extérieur, j'ai l'impression qu'on a eu la même éducation, mais en fait, apparemment pas, quoi. Et les différences sont tellement infimes et créent des décalages au fur et à mesure du temps tellement énormes que je sais même pas d'où c'est parti, mais aujourd'hui il y a une différence quand même.
C'est le battement d'aile du papillon.
C'est ça.
Tout à fait. Bah, disons que même si le contexte familial il joue beaucoup, mais après tu t'es assez vite propulsé dans la société en général, dès que tu vas à l'école, dès que tu consommes la pop culture, etc. Et du coup, tu peux pas, enfin, même si deux parents ont beaucoup, beaucoup de bonne volonté, tu peux pas lutter contre le reste du monde qui va impulser des dynamiques tellement inconscientes que tu t'en rends même pas compte que, enfin, tu mets du temps à te rendre compte que spontanément tu vas plus aider ton daron à bricoler que aider ta mère à cuisiner. Et que, en fait, personne te le fait remarquer, c'est pas un problème, c'est normal. Donc, tant que personne te met le doigt sur le problème, tu sais pas que c'en est un, quoi.
Ouais, c'est clair.
Et je pense que pour le truc du féminisme, il y a aussi un côté où, en tant que meuf, on est considéré comme on a quelque chose à gagner. C'est nous les perdantes dans l'égalité, donc on a des choses à gagner à faire de la sensibilisation et à parler de nos expériences, à essayer de militer de plein de façons différentes. Alors que quand un mec en parle, comme dans la tête des gens, vous avez rien à gagner, mais on en reparlera plus tard. Ouais. C'est un peu genre vous êtes neutre de base. Mmh. Donc si vous êtes d'accord, ça a encore plus de poids parce que vous n'êtes pas concerné. C'est juste genre vous êtes éloigné, vous survolez le truc et vous dites non, je pense que les femmes ont raison. Ouais. C'est genre waouh. Ils pensaient alors que
gagner entre guillemets du coup
et puis même au contraire on a déjà rencontré des personnes qui pensent qu'avec le féminisme, les hommes ont des choses à perdre.
C'est sûr.
C'est sûr. Mmh. Et même des filles qui nous ont dit, ah, moi j'ai l'impression que le féminisme, c'est des femmes qui veulent être au-dessus des hommes, en fait. Et du coup, cette notion-là de féminisme, elle est même pas comprise par l'entièreté de la population, quoi. Hommes comme femmes, quoi. Y a des gars qui ont l'impression qu'ils vont se faire marcher dessus, du coup, à cause du féminisme. Et puis des filles qui voient les féministes comme des hippies hystériques, quoi, hystériques. Du coup, il y a un manque de compréhension même de ce que c'est que d'être féministe, juste de vouloir l'égalité de traitement entre les deux sexes, quoi.
Vous pensez que ça changera quoi dans la vie des hommes le jour où on aura gagné l'égalité, où le patriarcat sera mort et enterré?
Bah, nous, déjà, je sais que à notre échelle, on en a envie parce que c'est tout con, mais par exemple, un groupe de potes de 10 personnes où c'est 10 mecs, ça nous, je sais pas, l'ambiance nous fait beaucoup moins kiffer que s'il y a 5 mecs et 5 filles, quoi. C'est, je sais pas pourquoi, mais le mélange des genres apporte, je sais pas, une diversité dans les discussions et dans les décisions qui peuvent être prises. Je pense que ça peut être que bénéfique, quoi. Mais là, on parle de féminisme, mais c'est comme le mélange de cultures, quoi. C'est un problème qui est plus vaste. L'égalité entre les êtres vivants, c'est pas juste le féminisme. C'est pour ça que quand on parle de féminisme dans ce voyage, ça divague souvent sur l'égalité entre êtres humains, tout simplement, quoi. Et du coup, je pense qu'on aurait beaucoup à gagner dans la société à promouvoir cette égalité au maximum. Et peut-être qu'il y aurait des problèmes qui seraient pas là. Je parle, bon là, faut pas parler trop politique, mais quand
vous
on voit
pouvez
que les,
parler de ce que vous voulez,
quand hein. on voit que les États sont dirigés en grande majorité par des mâles blancs, quoi, en gros, on se dit, ah ouais, mais est-ce qu'il y a pas un problème avec la politique en France aussi, parce que c'est toujours les mêmes genres de personnes qui dirigent, quoi. Je sais pas, Ségolène Royal en 2007, elle s'est fait lyncher parce que c'était une fille qui se présentait à la présidentielle. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de ça, quoi, derrière, quoi?
Elle s'est fait défoncer par son propre camp.
Par c'est son propre est... camp, alors que c'est parce que c'est une femme. Je pense qu'il y a vraiment de ça au fond, quoi. Et on parle les figures un peu politiques féminines.
Autoritaires, mais... surtout.
Ouais, c'est comme Christiane Taubira, pareil, quoi. Elle s'est fait lyncher. On t'aime, Christiane, quoi. Tiens bon, quoi.
Peut-être que vous pourrez plus facilement rencontrer Christiane Taubira que Angèle. Il y a plus de chances qu'elle soit à Paris.
C'est vrai.
Personnellement, je l'ai jamais rencontré, mais vous l'embrasserez de ma part si vous allez la voir.
Ouais, moi, je regarde beaucoup ces vidéos à Christiane Taubira quand à l'Assemblée, il y a des gens qui lui font des réflexions et tout. Genre, quand elle parle dans des monologues comme ça, ça me donne envie de parcourir le monde. Ça me donne une force absolument incroyable. Je pense qu'elle est au-dessus de tout le monde. Christiane, je t'embrasse. Non, je voulais juste repartir aussi sur ce truc-là. On a été hébergé par une famille au Mans. C'était il y a 2 jours et du coup à table on parlait de féminisme avec notre sujet et il y a le mari du coup le père de la famille qui a dit ouais mais moi c'est vrai je travaille à Super U et par exemple quand il y a un problème tout ça avec les filles qui bossent à l'accueil le truc il peut durer 10 minutes, un quart d'heure, j'arrive, à partir du moment où j'arrive j'ai l'impression que le problème il est réglé. Donc d'une, elle perd en crédibilité parce que j'arrive, je dis rien de plus et le problème est réglé. Et puis de deux, du coup, la personne a juste à voir une figure entre guillemets masculine, autorité, pour se calmer, quoi, alors qu'il n'y a rien de plus. Et je pense que du coup, le moment où on aura réglé ça, on aura réglé pas mal de soucis qui servent à rien, en fait. Genre, il y a énormément de problèmes qui servent à rien, concentrons-nous sur des choses qui servent, quoi. Genre, l'écologie. Ce sera le prochain.
Une petite hésitation, peut-être l'année prochaine.
Ce sera le sujet d'un autre voyage l'année prochaine, carrément.
Toi, Paul, tu penses que la vie des mecs changera comment s'il n'y a plus d'inégalité homme-femme?
Si on est égaux entre hommes et femmes, bah comme il disait, je pense que ça peut, c'est tout bénéf, quoi. Ça fera que bien, je pense, parce que bah tout le monde aura les mêmes droits, du coup il y aura beaucoup moins cette question de femmes qui se sentent un peu inférieures, d'hommes qui se sentent supérieurs. Donc je vois pas en quoi ça pourrait être mal d'avoir cette égalité homme-femme, à part pour les personnes qui ont peur, justement comme disait Clément, de se faire entre guillemets marcher dessus, de perdre en, je sais pas, en notoriété, en puissance, j'en sais rien de ce qu'ils peuvent perdre, en fait ils ont rien à perdre. Ouais, c'est ça. Et du coup en fait, je pense que ça peut être que bien de rétablir cet équilibre d'égalité homme-femme. Je vois pas à quel moment on pourrait être perdant dans ce truc-là.
Dans leur tête, ils perdent de la virilité.
Bah oui, mais c'est ça que je, enfin c'est ça que j'ai un peu de mal à saisir en fait, faire de la vérité, parce qu'on rétablit la balance alors qu'ils ont, enfin on est en rien supérieur à, il y a aucun sexe qui est supérieur à l'autre, donc j'ai un peu de mal à saisir le truc comme quoi on serait perdant si on rétablit.
Ah, je pense que le pouvoir il est associé à la virilité. Et du coup, les hommes qui dirigent les grandes entreprises du CAC 40, c'est que, enfin, déjà, c'est que des hommes. En politique, c'est pareil. Et du coup, je vois un peu, c'est des personnes qui ont envie d'avoir du pouvoir. Et donc, donner ça, faire en sorte que ça s'améliore sur ce point-là, le féminisme, ça pourrait être aussi pour eux un risque de perdre leur pouvoir, de perdre leur virilité. Et ils se sont construits toute leur carrière sur cette virilité-là que leur donne le pouvoir, quoi.
Je pense que c'est juste une question de virilité, du coup.
Ouais, mais je pense que le pouvoir et le capitalisme, il est associé à cette notion-là de virilité, quoi. Mm. Et du coup, je me dis que ça peut être aussi pour ça que ça avance pas forcément. C'est parce que les hommes qui peuvent faire vraiment changer les choses, bah, ils en ont pas envie, en fait.
Tu penses que les hommes qui sont assez détendus sur leur virilité pour être à l'aise avec le fait qu'il y ait de l'égalité, du coup c'est pas eux qui veulent
ils sont pas au pouvoir,
et du coup ils vont pas être décisionnaires de les choses vont changer.
Ouais, c'est pour ça que ça peut partir de la base de nous, des initiatives individuelles, mais ouais, les hommes qui sont au pouvoir ou qui dirigent les grandes entreprises, bah, ils sont là aussi parce que le système fait en sorte que ce soit la virilité qui prime et qu'ils les mettent à cette place là quoi. Et donc je me dis là, on est mal barré si c'est eux qui prennent les décisions.
C'est ces gens-là qu'il faudrait convaincre, en fait. Il faudrait qu'on les rencontre.
J'avoue, on va poser le micro, on va aller les voir.
En fait, c'est pas une figure féministe qu'il faut qu'on rencontre, c'est ces gens-là pour les convaincre.
Vous allez voir Bolloré et Dassault et dire alors, on va parler virilité.
On va parler un peu virilité, là, les gars, faut se calmer, faut redescendre un peu et essayer de comprendre qu'il faut rétablir le truc, quoi. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis, genre, c'est juste ça, en fait. Une question de virilité, ça fait mal, en fait, de dire ça, genre, ok, c'est juste lié à ça, quoi.
J'aime bien comme tu dis ça, genre c'est pas important la virilité, donc enfin c'est juste ça qui bloque.
Bah c'est juste ça qui bloque, c'est juste comme il dit, on était dans une société où ouais le mâle il a besoin de réussir, il se dit ok on est dans une société, j'ai envie de réussir, j'ai envie d'être chef et tout, et c'est juste ça qui bloque le fait que on rétablit la balance, genre que en fait si on redescendait un peu sur terre et qu'on se disait bah non les femmes aussi elles peuvent monter le pouvoir et c'est pas grave, tu vas rien perdre si c'est une femme qui prend ta place et que toi t'as je sais pas autre chose, c'est pas un problème, en fait c'est juste ce petit truc, j'ai l'impression que c'est pas, enfin je sais pas.
Ouais, mais c'est exactement comme le fait que ça puisse déranger beaucoup d'hommes que leurs femmes gagnent plus d'argent qu'eux, parce qu'il y a un truc de virilité, c'est l'homme qui doit assumer la charge de la maison, de la famille, parce que voilà c'est l'homme qui maîtrise le truc. Et ça, moi on va mettre un peu d'espoir dans cette discussion quand même. J'ai un peu espoir que ça change, parce que je sais pas, avec mon entourage amical et notre génération, j'ai l'impression que ça change un peu cette notion là de virilité, que c'est plus forcément quelque chose qu'on met en avant, en tout cas nous dans nos amis.
Ouais, carrément.
C'est pas une valeur qui nous tient vachement à cœur, en fait, la virilité, en tout cas nous.
Mais vous pouvez être viril et en faire un truc positif aussi.
Mais peut-être, mais du coup, je sais pas ce que ça veut dire la virilité, en fait. Donc peut-être qu'il.
Ça veut dire quoi pour toi?
Bah pour moi, justement, ça veut rien dire. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec cette notion-là.
Voilà. Ah non, non, mais si, ça veut dire un truc pour toi. T'as forcément, si on dit virilité, t'as des images qui te pop. C'est obligé.
Ouais, bah j'ai des images d'un mec qui a un torse poilu avec une chaîne en or, quoi.
Quelqu'un
du
viril,
coup,
quoi.
C'est assez éloigné de moi, même si on est à la radio. Je suis pas du tout,
on a très peu de chaînes en or ici.
J'ai pas de chaîne en or, quoi.
Ça veut peut-être dire qu'il faut que votre génération, non pas se débarrasse.
Non, change l'image du mot, enfin, de la virilité, quoi.
Se réapproprie une forme de virilité différente.
Ouais, complètement.
Mais en fait, j'ai l'impression que la virilité, c'est associé à l'inverse de la sensibilité, quoi. Et moi, j'ai pas envie d'être un mec ou que mes amis soient des mecs pas sensibles, parce que ils se considèrent comme virils et qu'il faut à tout prix être viril, quoi.
Ouais.
Et je pense que ce qui est pas forcément facile à faire dans la construction d'un homme quand on est jeune, c'est d'assumer cette part de sensibilité qui peut être associée à de la féminité, quoi. Et ça, moi, je pense que ça va, je l'assume assez bien, parce que dans ma famille, je sais que mon père, il a toujours dit, moi, j'ai une part de féminité qui est peut-être parfois forte, et que voilà, les gens lui disent, quoi. Mais cette sensibilité-là, je pense que c'est une valeur qui me semble plus importante, moi, que la virilité. Peut-être parce que j'ai pas la bonne définition de la virilité et que je me suis construit à l'opposition de ça, mais je sais pas.
C'est ça.
il montre une tasse avec Ron Swanson de Parks and Rec, donc un bon moustachu, mais qui a un personnage viril intéressant pour le coup, parce que ça pourrait être le pire mec, parce que c'est un mec moustachu qui aime la viande, le bacon et chasser des trucs, mais en vrai, il aime aussi les femmes fortes et leur donner du pouvoir, donc il est cool. On aime bien Ron Swanson.
Okay. C'est bon, alors.
Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des occurrences dans votre vie où quelqu'un, que ce soit la société en général ou le monde ou quelqu'un de précis, vous a fait ressentir que vous n'étiez pas un homme de la bonne façon, ou que vous n'étiez pas assez un homme, ou que vous n'étiez pas assez viril?
Ouais, moi j'en ai déjà eu plein de fois en fait. J'ai plein d'exemples, notamment dans mon travail, genre en tant que menuisier, où c'est tout con, c'est vraiment tout con, mais genre des exemples où on m'a demandé un coup de main pour porter un truc un peu lourd. Et bah, au premier abord, j'étais le stagiaire, pas très musclé, ça se voit, je suis un peu gringalet. Bah, on me demandait pas au début de l'aide. On allait demander à un collègue qui paraît mieux en forme, plus viril, j'en sais rien, tu vois, de l'aider parce que il a plus de chances de l'aider, d'être plus apte à l'aider dans ce moment-là. Et c'est vrai que, du coup, moi, ça m'est senti, ah ouais, ok, moi, je suis moins considéré comme un mec, comme un mec capable de le faire et tout. Donc, ouais, ça rejoint ce que tu dis. Alors, ça m'a fait sentir ce truc-là. Mais après, ça m'a pas dérangé. Genre, je me suis dit, ok, bon, bah, si eux, coup d'après, j'ai demandé de l'aide pour porter un truc et j'ai très bien réussi, quoi. Donc j'ai prouvé que c'était un peu ridicule.
Parce que t'es très musclé en plus, moi je trouve. Paul.
Ah oui, merci.
Vous êtes ensemble. On t'entend plus.
Ouais. C'est vrai, j'ai perdu le mic.
On a deux micros pour trois, donc ça fait des petits échanges, des petits deals.
J'avoue que j'ai pas trop d'exemples. Enfin, ce serait plutôt. Ce serait plutôt le fait d'être... moi, je suis trop, trop gentil avec les filles.
Ouais, genre, c'est ce que j'allais dire aussi.
Si, ouais, j'en ai un, en fait. Il est ouf. Ouais, moi, c'est jamais moi qui vais faire l'enfoiré dans les relations et tout. Genre, je suis plutôt à essayer de sauver le truc et tout. Et j'avoue que c'est un peu inversé. Genre, je me fais un peu lyncher là-dessus parce que je suis trop gentil. Genre, on me dit, ouais, mais mec, t'es trop gentil aussi. Genre, les filles, tu sais, faut être un peu méchant, tu vois. Je dis, mais mec, c'est pas possible ça. Enfin, genre, je peux pas me dire, ok, là, je vais être un petit peu méchant et après, je vais être un petit peu gentil, peut-être pour que ça le fasse et tout. Bah non. Genre, il y a un moment où, du coup, genre, les mecs gentils, tu vois, c'est les mecs friendzonés. Moi, je suis un pro de la friendzone, moi. Genre, j'ai.
Mais ça veut dire. Yes. Mais ça veut dire quoi que t'es trop gentil? Parce que peut-être que si tu te fais friendzoner, c'est parce que tu dis pas toi aussi tes propres intentions. C'est-à-dire que.
Si. Si, si, carrément. Yes, je suis un loser.
C'est le grand truc. Non, mais la friendzone, c'est un vrai sujet. Il y a deux façons de le voir.
Ouais.
L'une des façons, c'est de te le voir comme victime de la friendzone en tant que mec sympa. Des filles qu'en fait, elles pourraient être sympas, elles pourraient te coucher avec toi quand même, ça serait cool, quoi. Ou alors, t'as l'autre vision qui est, en fait, c'est les mecs qui décident de pas faire le premier pas ou de pas venir dire clairement à leurs amis, notamment,
ouais,
qu'en fait, ils voudraient aller plus loin et donc ils préfèrent rester dans ce truc-là, quoi, tu vois.
Ouais, non, je sais. Moi, c'est vraiment, genre, je rencontre une fille et tout, je passe des super moments avec elle. À un moment, je me dis, bon, bah, go, tu vois, je me jette à l'eau, comme on dit. Et elle me dit, ouais, mais je peux pas, tu vois, genre, t'es mon petit frère, c'est pas possible et tout, t'es comme un frère pour moi. Je fais, oh, ok, je suis comme un frère, putain, mais je suis le frère de tellement de meufs ici, c'est incroyable.
Mais tu l'as rencontré depuis quand, cette meuf, qui dit ça?
Ouais, des fois, ça peut durer longtemps, je sais pas, enfin, ça peut... La dernière, là, franchement, j'ai fait genre en 2 mois, tu vois, genre, j'étais pas mal, 2 mois, c'est un bon timing. Je sais pas ce que vous en pensez chez vous.
Tu mets du temps à prendre des morceaux à la guitare, en fait.
Ouais, j'avoue.
Tu leur chantes des chansons à la guitare?
Genre, chante des chansons à la guitare. Des fois même, j'en écris.
Mais c'est chou.
Et je suis là pour me livrer. Fabrice, tu m'as dit, il faut que tu joues le jeu. Je suis là pour me livrer.
Merci pour
ça. Je te livre des infos, moi.
Ouais, t'as raison.
Non, mais oui, il y a beaucoup de composants dans ce qu'on appelle la friendzone. Donc, il y a effectivement ce que tu dis où, en gros, il y a des mecs qui... La métaphore, c'est un peu, ils mettent des pièces de gentillesse dans la machine fille et ils attendent que du sexe sorte à la fin. Mais en fait, être gentil, c'est genre la base, tu vois.
C'est hyper pas... beau, ça faudrait faire un t-shirt avec marqué ça dessus.
Ça pourrait faire un bon t-shirt. Et en fait, juste être gentil. Enfin, c'est des mecs qui pensent qu'il suffit d'être gentil. Alors que être gentil, c'est la base dans la vie. C'est pas, t'as pas une médaille parce que t'es sympa, quoi.
Ouais,
c'est,
mais pour autant, il y a plein de mecs qui te disent, ah ouais, mais mec, moi, ça marche bien avec les filles parce que je suis un peu méchant. Du coup, ouais. Être gentil, ça suffit pas. Mais par contre, être méchant, ça suffit, parfois. Être méchant ou être...
En fait, il faut trouver la... Et vraiment, c'est pas un cours de drague, ok? Je suis pas pick-up artiste.
Mais je pense qu'on est
socialisé à... Et c'est ce que les pick-up artistes apprennent, du coup, à des mecs un peu paumés. On est socialisé à vouloir, nous les femmes, hétéros, à rechercher l'attention masculine et la validation masculine. Du coup, un mec qui te valide de base et qui t'apprécie de base, parfois, t'as un côté con de ton cerveau qui est là en mode, bah, ça vaut pas le coup, c'est trop facile, tu vois. Genre, j'ai gagné, j'ai déjà gagné, et du coup, c'est pas marrant de jouer. Alors qu'un mec qui est là, genre, t'es là, putain, j'ai envie de lui plaire parce que de base, j'ai pas l'impression de lui plaire assez et où il me fait des petites réflexions ou des trucs comme ça. J'ai envie de me donner pour lui plaire parce que du coup, à la fin, j'ai gagné. Genre, je jouais pas en mode facile, quoi. J'ai gagné et c'est une victoire. Et c'est des mécanismes cons qui sont appris, tu vois. Ouais, mais vous faites pareil en vrai, tu vois. Genre, tellement de mecs qui passent. Alors là, c'était deux mois, ça va, franchement. Mais il y a des mecs qui passent 3 ans à être ton meilleur pote.
Ouais.
Et au bout de 3 ans, ils te disent qu'ils essayent de te ken. Et t'es là, bah, pour X raisons, j'ai pas envie de te ken, tu vois, c'est pas très grave.
Ouais.
Et ils arrêtent de te parler. Et t'es là, ok, donc, en fait, tu me vois pas comme une personne. Tu voulais pas vraiment être mon ami. Tu voulais mon cul. Et une fois que tu as su que tu l'aurais pas, ou que, par exemple, toi, en tant que meuf, tu te mets en couple avec quelqu'un d'autre, parce que juste le gars, à zéro moment, il t'a indiqué qu'il était intéressé par autre chose que de l'amitié. Il t'en veut, il t'engueule. Je me suis déjà fait engueuler par des potes avec des guillemets parce que j'avais trouvé un mec et ils étaient là, ben sympa. J'étais là, on est potes, quoi, hein? Et en fait, juste si tu dis jamais ou que t'indiques jamais qu'il y a plus que de l'amitié, nous, naïvement, on pense qu'on est apprécié en tant que personne pour notre conversation et après, ça fait des problèmes. Mais en fait, oui, la séduction, elle est niquée parce que... Enfin, la séduction hétéro, en tout cas... Elle est niquée parce qu'on grandit avec des modèles différents et des schémas différents. Mais je pense que, là encore, c'est la faute du patriarcat. Et je pense que plus l'égalité avance, plus il y aura différentes façons d'être soi-même dans la séduction et de pas forcément tomber dans les mêmes schémas de « Oh là là, il faut que le mec ce soit un peu un bad boy, un peu un connard et il faut que la meuf, elle soit un peu féminine, mais pas trop. »
Le coup du bad boy, on l'a eu tellement de fois.
Genre, est-ce que vous avez déjà genre essayé ? Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit bah, « Peut-être si tout le monde me le dit, je vais essayer d'être un connard, hein, on va voir. »
Jamais.
On nous a souvent dit ça et on s'est toujours dit. Enfin, c'est tentant. Tu vois, le truc, genre, ah ouais, du coup, ça marcherait trop bien. C'est un peu la potion magique, tu vois. Mais, mais franchement, on serait tellement pas en phase avec nous-mêmes et ça nous dérange pas à ce point-là non plus de pas être des mecs qui gèrent de ouf. Du coup, que franchement, on préfère rester en phase avec nous-mêmes et puis au final, ça marche quand même. On y arrive, quoi.
Félicitations. Tout récent. On a perdu Mimi, on a perdu Fabrice.
Non mais le seul dans ton félicitation, c'était super.
Félicitations, c'est vraiment
genre. Vraiment... Tu vas trouver quelqu'un de formidable, t'es un mec en or.
Le mec qui est sur le banc de touche et qui regarde ses potes jouer, tu vois, et qui est là en mode bravo, ouais, le but.
Clément, ça fait 2 fois que je t'entends faire un compliment à tes potes.
Ouais.
Ouais, pardon.
C'est des choses que vous faites entre vous. C'est un truc qui n'existe pas normalement dans l'amitié entre
c'est
mecs.
Vrai. C'est vrai. Et ben très compliqué. Nous, en fait, on a notre groupe de potes de lycée dont là, on en fait tous les trois partie. Et ben, on est de plus en plus proches parce qu'on se voit souvent et on essaye de le faire vachement. Ouais. Par exemple, Paul qui est à ma droite, je lui dis très souvent qu'il est beau. Parce qu'il est beau, ce con. Et du coup, mais quoi?
Comment tu...
Et du coup,
Paul, je te vois en train de faire.
Non, mais du coup, moi, je trouve ça important de valoriser les gens qui nous entourent, que ce soit des hommes ou des femmes. Et les compliments, ils sont souvent plus difficiles à faire que les reproches. Et moi, je préfère faire plus de compliments que de reproches.
Comment tu le prends,
bah,
Paul?
Je suis d'accord. Bah, ça me fait plaisir qu'il me le dise. Mais il me le dit un peu trop souvent. Hein. Il commence presque par moment à me faire peur, du coup.
Mais il y a ce truc-là aussi.
Ouais.
Le problème entre mecs.
Non mais là ça va
pourquoi ça te fait peur?
Non mais c'est plus pour rigoler, je sais que c'est un pote et il aime bien aussi m'embêter avec ça.
Ah ouais, le dire.
Il sait que moi à force ça me gêne entre guillemets parce qu'il me le dit tellement souvent pour déconner que je sais que c'est juste de la déconne et ça va pas plus loin. Mais c'est vrai que ce truc de complimenter entre potes, on aime bien le faire parce que comme disait Clem, c'est pas quelque chose de facile entre guillemets parce que y a des fois ce défi d'un mec qui fait un truc mieux que toi et du coup au lieu de le complimenter, tu vas peut-être d'abord le jalouser et machin, on a plus du tout cette barrière entre potes. Du coup, dès que je prends une claque par un pote parce qu'il fait un truc trop stylé, bah on le dit qu'on fait « Ah ouais. Putain, tu gères trop, c'est trop stylé ». Du coup, on se complimente assez régulièrement. Ouais.
Et puis, c'est pas facile
entre potes. Sans le faire tout le temps non plus.
C'est pas facile entre potes de donner des preuves d'amour. Parce que, tu vois. Non, mais on aime ses potes.
Regarde
tu vois.
Comme ils rigolent comme des couillons.
Je comprends pas pourquoi vous rigolez comme des couillons. Mais c'est
il lui a donné un coussin fluffy.
Non, mais c'est important de donner des preuves d'amour à ses potes. C'est plus facile. Dans une relation de couple, c'est pas la même chose. C'est plus facile. Et les compliments, c'est la seule manière de donner des preuves d'amour
à tes potes. Ouais.
Claire, quoi.
Est-ce que vous vous donnez de l'affection physique?
Ouais.
Est-ce que vous faites des câlins?
C'est vrai qu'on en fait de temps en temps.
Ouais, on se fait des câlins, on se
fait
la bise.
Dès qu'ils ont mis un slip.
Ouais.
En fait, hier soir, on a dormi sur un canapé. Il y avait pas beaucoup de place.
Et vous avez fait les trois petites cuillères.
On s'est vraiment mis en mode petite cuillère, quoi.
Qui était grande cuillère, cuillère du milieu, petite cuillère.
Cuillère du milieu, c'était Paul, parce qu'à chaque fois, voilà. Ok. À chaque fois, on tire à Shifumi quand même pour pas qu'il y en ait qui se sentent lésés.
Ouais.
Mais on se fait, on se fait des câlins. Souvent quand on est là, on vient de partir en vacances à 8 entre potes, et ben on se fait beaucoup de câlins collectifs au moins une fois par. Ouais. Une fois par jour, quoi.
Et aussi dans les moments par exemple en vacances, on était dans un endroit où il faisait très très frais la nuit et on devait dormir à deux par tente.
On n'est pas obligé de tout raconter.
Tout, on peut raconter les choses. Il faut s'ouvrir un petit peu. Hein. Donc ouais, on s'est dit
Clem,
on
est là maintenant.
Du coup,
c'est toi qui as commencé, Clem.
OK, s'il faut se faire un câlin pour se réchauffer la nuit, bah on fera un câlin pour se réchauffer la nuit, tant pis.
On avait dit qu'on disait rien.
C'est vrai qu'on avait dit qu'on disait rien, mais là c'est marrant.
C'est ce truc où genre ça arrive pendant la nuit et vous en reparlez jamais.
On
vanne dessus.
Il faut savoir quelque chose avec nous, c'est franchement la gêne de parler des choses est très peu présente.
Ouais, très peu présente.
Avec ce genre d'aventure qu'on fait là, ça nous supprime toutes sortes de gênes pour parler de ce genre de sujet-là. Du coup,
si ça nous arrive, on va vanner dessus en mode ah non, on le dira jamais.
Dès le lendemain matin,
mais
quoi.
Dès le lendemain, en fait, on va le raconter aux potes. Ouais, bah dans la nuit, on s'est réveillé, voilà quoi. Bon, mais ça nous arrive vraiment. Hein, mais
de l'extérieur, ça vous dérange pas parce qu'il y a toujours cette homophobie latente en fait entre mecs qui est très compliquée à gérer.
Plus du tout. Au début, mais là,
ça, je pense que c'est le cas quand t'es pas au clair avec toi-même, quoi. Si t'es en phase avec toi-même et que on est tous en phase, on se connaît bien.
C'est ça.
Bah du coup, on s'en fout, quoi. Si les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, à la limite, et puis c'est pas une insulte, à la limite.
Mais comment t'as fait pour être en phase avec ta propre homosexualité latente?
Mais c'est être en phase avec sa sexualité, c'est être en phase avec soi tout simplement dans la vie, quoi. Je pense que tout le chemin qu'on parcourt depuis qu'on commence les études, moi j'ai l'impression que ça se situe vraiment là, quoi, après le bac, et ben ça sert à se construire un peu. Et quand tu te construis ton projet professionnel, ta bande d'amis, que familialement tout roule, et ben t'es au clair avec toi-même, et puis après tout roule, quoi. Et ce chemin de construction là, bah il faut que tout le monde le fasse pour pouvoir après assumer ça. Et du coup j'ai l'impression que les mecs qui charrient là-dessus, ou qui sont, ben c'est qu'ils sont juste pas à l'aise avec eux-mêmes, quoi. Ils sont pas assez à l'aise avec leur sexualité, leur virilité pour assumer d'aimer leurs potes, quoi. Du coup voilà.
Est-ce que vous avez déjà pleuré les uns devant les autres?
Bah, y a...
Est-ce que vous vous êtes déjà vu pleurer?
Nous, on a pleuré récemment. Il y a,
il y a trois semaines. Il a pleuré.
Il y a trois semaines avec Matt. En fait, on était. C'est un peu particulier. Mais on était à trois dans une voiture pour revenir des vacances. On avait trois heures de route et on avait une discussion avec un de nos meilleurs amis qui le concernait. Et justement, je parlais de. Fallait se trouver. Et nous, on lui disait qu'il avait. Et qu'il était d'accord qu'il avait du mal à se trouver et qu'il fallait qu'il se bouge un peu dans la vie, quoi. Et du coup, c'était une discussion un peu compliquée et on a fini tous les trois en chialant dans la voiture en disant mais on fait ça parce qu'on t'aime, mec, et tu vois. Et l'émotion a pris le dessus, quoi.
C'est vrai, mais de base, juste après, je me suis dit on lui a dit ça. C'est maintenant, il faut que tu te bouges, il faut que tu prennes ta vie en main, il faut que tu ailles vivre des expériences, prendre des échecs dans la gueule et rebondir. Ça faisait mal parce que c'est pas une discussion qu'il a entendue souvent et c'est trop bizarre de le faire, tu vois, en tant que pote, quoi. Genre, tu vois, on n'est pas ses parents, on n'est pas son psy, on est juste son pote. Normalement, on est censé partager les bons moments et les mauvais aussi, mais. Et ce truc-là de finir hyper ému de ce truc là et de se dire bah voilà, genre on se connaît depuis 9 ans et c'est maintenant qu'on te dit ça, moi j'avais ça sur le cœur depuis super longtemps, je me suis dit putain c'est la meilleure des preuves d'amitié, quoi. Genre quand t'as ton meilleur pote qui te dit ça et qui finit en chiale, tu te dis putain waouh, c'est pas rien, quoi. Et ce truc là de pleurer, enfin bon, j'avoue moi j'ai pas les larmes faciles, quoi.
Ouais, genre, en plus, mais, jamais, mais
mais là il y avait un truc et ça m'a pas dérangé de pleurer devant mes potes et je me suis dit putain c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt beau, plutôt que de faire oh non, trop la honte. Il a pleuré.
Tu mentionnais tout à l'heure, Clem, que toi tu trouves que apparemment vous trois vous trouvez que c'est plus sympa d'être dans des groupes mixtes que d'être dans des groupes que entre mecs.
Carrément.
C'est quoi, vous pensez, qui serait à améliorer? Genre, est-ce que c'est possible que les groupes que entre mecs aient la même qualité, on va dire, que les groupes mixtes? Est-ce qu'il y aurait des trucs à améliorer dans les relations masculines au-delà de l'homophobie latente dont on a déjà parlé?
Bah, une fille, ça ramène, c'est con, mais il y a des qualités qui sont féminines, comme la sensibilité, qui sont bien plus assumées chez les filles que chez les hommes. Et la sensibilité dans un groupe,
c'est hyper important parce que moi je connais des groupes de mecs dans lesquels les choses ne se disent pas par peur de s'ouvrir. Et je pense qu'une fille dans un groupe, elle amène ça. Je sais que nous, on a fait tous les trois le même bac. On était en bac sciences de l'ingénieur. Du coup, c'est un bac où il n'y a pas beaucoup de filles. Du coup, de base, il n'y avait que des mecs dans notre bande. Et dès qu'il y avait une fille, eh ben, il y avait des discussions intéressantes.
Des discussions
qui vont en profondeur sur ce qu'on pense de la vie, etc. Ouais. Qui sont pas là quand on est qu'entre mecs, en fait. C'est très marrant d'être entre mecs. On rigole, on déconne beaucoup. Mais d'être comme ça, de mélanger un peu les genres, ben ça permet d'apporter la qualité de chacun. Et à l'inverse, j'ai parlé à des filles, là c'est pas moi qui relate mon expérience, ou même ma sœur, mais des groupes que de filles, ben ça peut être aussi vite le bordel. Il peut y avoir certains inconvénients, quoi. Je sais que je connais beaucoup de filles qui ont été harcelées au collège par des groupes de filles. Et alors que les gars sont beaucoup moins harcelés au collège, nous en tout cas j'ai l'impression, dans leur propre cercle amical, parce que j'ai l'impression que les filles sont capables d'être très vaches entre elles, quoi. Et nous, on a beaucoup moins vécu ça, et je pense que mixer les deux, ça peut permettre vivre les choses, les relations.
On éduque les filles à la compétition et à se tirer vers le bas. Je ne sais pas si vous avez vu Mean Girls, qui est vraiment une très très bonne illustration de tout
c'est
ça.
C'est Lolita malgré moi en français. C'est un film avec Lindsay Lohan, un teen movie qui date un peu.
J'ai pas vu.
Moi, je l'ai vu. Parle de donc c'est Lindsay Lohan qui arrive dans un nouveau lycée et qui se retrouve avec le groupe de filles hyper populaires et tout, mais qui sont donc des Mean Girls, donc c'est des pétasses, quoi. Vraiment, elles sont odieuses avec les autres meufs, elles font régner un genre de terreur, mais tout en sans jamais être franche, en étant gentille avec tout le monde et tout, mais en les insultant dans leur dos et tout, parce qu'il y a à la fois l'aspect certes compétition entre filles. En gros, l'idée, c'est un peu ce qu'on appelle le syndrome de la schtroumpfette, c'est qu'il y a plein de lieux dans la société où il y a un peu de la place pour une seule meuf. Genre, il y a une meuf totem et le reste, ça va être des mecs. Et du coup, en tant que meuf, on est en compétition pour être cette meuf dans une bande de potes, cette meuf dans la boîte, cette meuf qu'on respecte ou qu'on voit comme cool et pas juste comme un truc féminin ou sexuel ou machin.
Cette compétition existe dans la vraie vie.
Mais c'est insidieux, c'est un truc vraiment inconscient.
Mais ce que tu dis là, c'est fou parce qu'on l'a dans notre groupe de potes. La fille dont on vous parle depuis le début, notre pote Anne, là, c'est un peu la seule fille du groupe.
Ouais.
Et on a beaucoup de mal à intégrer d'autres filles dans le groupe. Parce qu'elle-même, elle est face à ses propres démons. C'est que dès qu'il y a une fille qui arrive, ça se passe mal avec elle, en fait. Parce qu'elle se met automatiquement en compétition. Nous, ça, on a mis tellement longtemps à en prendre conscience. On comprend pas pourquoi. C'est relou.
Pourquoi vous n'êtes pas potes?
C'est ça, tu vois. Parce que nous,
je pensais pas que toutes les filles, entre guillemets, avaient ce truc-là.
On est éduqués comme ça, quoi. C'est très, très inconscient. Mais en même temps, on est aussi éduqués à être polis et à être gentils, etc. Donc c'est pas le même harcèlement souvent entre mecs et entre filles. Et du coup, entre filles, il y a le côté vraiment langue de vipère où ça va être des filles qui sont officiellement tes amies, tes copines, qui sont censées être des filles avec qui tu t'entends bien, qui vont te tirer vers le bas mais de façon très sournoise, et du coup tu peux même pas vraiment l'expliquer. Ça va être des regards ou un rire qui s'arrête quand
cette subtilité là, nous on la capte pas
du tout.
Et du coup, à la fin de la soirée, on se dit ah ouais, il y avait un problème, on n'a pas capté,
on a rien vu.
Et on se retrouve après 5 ans à avoir qu'une seule fille dans le groupe et que les autres viennent pas, quoi.
Est-ce qu'elle vous en a déjà parlé? On en parle
beaucoup avec elle très régulièrement parce qu'on est des gars qui parlent beaucoup. Et du coup, elle a conscience du truc, mais on sent que elle se bat contre le truc, mais c'est plus fort qu'elle. Et c'est vraiment une lutte intérieure. C'est le défaut sur lequel elle lutte le plus au monde, quoi. Ce truc-là. Et là, on se rend compte. Ah ouais, il y a un truc qu'on n'avait pas chopé, quoi.
Yes. Est-ce qu'il y a un truc dont vous vouliez parler dont on n'a pas encore parlé?
On a fait le tout. La friendzone, c'est fait. Okay.
Les larmes, c'est bon.
Les câlins entre potes, ok.
Ça, c'est bon. Moi, ça, je voulais vraiment le caler parce que c'était important pour moi.
C'était cool aussi. Non.
C'est bon. Je crois qu'on s'est tout dit.
Ok. J'ai une dernière question pour vous. C'est un épisode un peu spécial, donc on n'a pas suivi les questions traditionnelles de ce podcast, mais c'était très intéressant quand même. Mais il y a une question que j'aimerais bien vous poser parce que je la pose à tous mes invités et vous allez peut-être être un peu pris de court. Je vous ai pas donné de temps de réflexion, désolé. Okay. J'aime bien demander à tous les mecs qui se passent dans ce podcast s'ils ont en tête un modèle de masculinité positive. Un homme qui soit réel, donc un mec de la vraie vie, pas forcément connu. Vous pouvez me dire mon daron ou mon prof de maths.
ou un homme fictif, si c'est un personnage qui vous parle, qui pour vous représente une façon cool d'être un homme, une façon qui peut-être vous inspire ou que vous trouvez positive.
De personnages qu'on connaît, que ce soit notre père,
un homme, n'importe
un
lequel.
Homme, n'importe lequel.
Bah, moi, je sais pas si c'est de la masculinité que j'aime bien chez cette personne, mais je sais pas si vous connaissez Panayotis Pasco. Et je sais pas pourquoi j'aime beaucoup ce personnage et cet aspect à la sensibilité qu'il peut avoir. J'ai écouté pas mal de ses interviews. Et c'est le fait qu'il l'assume aussi bien. Et moi, je sais que ça m'a permis aussi de me dire, ah bah oui, c'est possible au grand public d'assumer sa sensibilité. J'avais vu une interview où il disait que cette sensibilité-là, ça le faisait galérer de ouf à embrasser une fille lors de rendez-vous et tout. Et je trouvais ça, et pour autant, c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec lui-même. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, il a ce bon rapport-là que moi j'aimerais avoir, quoi. Du coup, ouais, je dirais Panayotis Pasco.
Il y a beaucoup de gens qui me suggèrent de l'inviter dans le Boys Club. Ah donc, ouais. Mais c'est la première fois que quelqu'un le cite, par contre, ah donc ouais. C'est cool. Un jour, peut-être, il viendra dans le Boys Club. Je lis vos commentaires, je le sais.
Bah moi, je dirais, enfin, j'en ai déconné tout à l'heure, mais je dirais que le film OSS 117, du coup, Michel Hazanavicius et Jean Dujardin, là, ce qu'ils ont réussi à faire là, c'est-à-dire prendre un personnage et le mettre au premier degré pour qu'on comprenne qu'en fait, tout est incroyablement débile chez cette personne et c'est ça qui est ultra marrant. Je trouve ça fou en fait. Il y a énormément de gens qui essayent de rigoler un petit peu des inégalités ou trucs comme ça. Il y en a qui arrivent. Je trouve que cet exemple-là est complètement fou du coup. Pour moi, c'est un exemple parce que j'arrive beaucoup moi personnellement à communiquer par l'humour et du coup ce truc là m'a fait prendre conscience de ça. Après il y en a qui arrivent pas non plus et là par contre j'avoue que tout à l'heure on était à l'aise avec la gêne, ça peut me gêner de ouf, genre un film comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, rigoler du racisme et tout, genre je l'ai pas eu du tout, genre c'est ça m'a mis mal à l'aise, j'ai l'impression qu'ils étaient pas dedans. Après j'avoue que moi je suis fan de films et tout, du coup quand vous me parlez de un personnage qui m'inspire et tout, c'est là que je vais chercher. Si j'avais peut-être eu plus de temps, j'aurais pu en trouver un autre, mais...
Mais c'est bien Hubert Bonisseur de la tête,
quand même. Oui.
T'es masculin.
Mais du coup, c'est à l'inverse, quoi.
Oui.
Ouais, il montre tout ce qu'il faut pas être.
Tout ce qu'il faut pas être. Et toi,
comme homme dans la société,
ouais,
quoi.
C'est sûr, okay. Mais je pense qu'en plus, c'est pas si caricatural que ça de ce que les mecs étaient à l'époque,
ah ouais,
quoi.
C'est sûr.
Et je crois qu'il y a une interview où on avait... Du coup, c'était avant que le troisième film est en route pour 2021. C'était ouais. Avant qu'il soit confirmé. Ça, et il y avait une interview où on avait demandé à Jean Dujardin comment vous voyez Hubert Bonisseur de la Batte, comment vous le voyez vieillir. Et en fait, pour lui, il est homosexuel. Il est juste complètement refoulé. Et ouais. Ça, il y a tout
mais d'ailleurs, y a des indices
ce sous-texte
film,
chelou avec son pote
films,
américain
ouais.
Où ils sont torse ouais, nu ouais. Et tout dans l'eau. Et ouais. En fait,
ah,
pour l'acteur,
en...
du coup, il implique ça aussi dans son jeu d'acteur et dans le personnage que c'est un mec qui surjoue les codes de virilité pour des mauvaises raisons ouais. Et probablement qu'il sera plus épanoui et moins gênant le jour ouais, où oui. Il aura accepté qu'il
qu'est-ce,
y est. Quoi.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Kiki Hubert
c'est le dernier personnage que j'aurais pu citer dans la masculinité positive, tu vois. Hubert Bonisseur de la Batte.
T'as cité mais du coup, Hazanavicius et Dujardin,
voilà.
Pas,
ouais,
le
oui, voilà, pas le personnage.
Oui, voilà, pas le personnage. Ouais.
De, ok. Bah, moi, ce serait plus le personnage dans un film. Je sais pas si vous connaissez Captain Fantastic. C'est un film avec Viggo Mortensen. Bah, c'est carrément l'idée, entre guillemets, donc, la masculinité positive que j'en fais, c'est ce père dans ce film. Rien que pour les notions qu'il inculte à ses enfants et tout, qui met pas du tout. Déjà, il met complètement égal le sexe d'homme et de fille, parce qu'on le voit, ils vont à la chasse, ils le font tous, que ce soit les filles, les mecs, ils jouent de la musique, ça est un peu plus sensible, les mecs, les filles. Et du coup, c'est un personnage qui m'a complètement fait kiffer, voilà, quand j'ai vu le film. Et ouais, si je dois citer quelqu'un, ça serait lui, juste pour.
Mais pas mal.
Pour ce qu'il est dans le film et ce qu'il fait, quoi.
Trois exemples inédits, du coup. Trop bien.
Ça fait plaisir.
Merci beaucoup les gars. Est-ce
merci,
qu'il y a...
merci à vous de nous avoir reçus.
On mettra dans la description, ce sera quelque part sur internet votre vidéo.
Ouais, on va
votre
faire
voyage
une vidéo YouTube et puis ouais. vous serez dedans.
Ok, trop bien.
Carrément.
Eh bien, on mettra tout ça dans la description du podcast
okay. Yes,
et on prendra les contacts pour que je vous envoie l'épisode. Et
carrément.
Okay. Bah, c'était
merci,
trop
merci
bien.
Merci à vous, yes, c'était génial.
Merci
cool.
D'avoir sonné chez mademoiselle.com.
Bah ouais, au culot quoi.
C'est ça.
Ne venez pas tous, auditeurs et auditrices, sonner chez mademoiselle.com après avoir écouté cet épisode.
Juste pour être dans
juste partir à poil.
Voilà. Envoyez-moi un mail dans la description. Il y a marqué comment venir dans le podcast et prendre des rendez-vous. Mais ce petit truc improvisé était très chouette.
Ça fait plaisir.
Nous, c'est le plombier qui nous a ouvert la porte de l'immeuble.
Donne pas les astuces, putain!
Petits tips.
Ça sera coupé, ça, montage.
Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'être fidèle au poste.
Je ne peux que te conseiller et te demander chaleureusement, si tu aimes le Boys Club, de lui donner une note avec des étoiles sur iTunes et d'en faire la promotion autour de toi grâce à la magie du bouche à oreille. Comme ça, il y a de plus en plus de gens qui écouteront ce podcast et le monde sera plus doux. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau The Boys Club. Et en attendant, porte-toi bien. Bisous.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.